avec vous, Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la progression sensible des forces russes dans l'est de l'Ukraine, correspondance de Kiev. Des bombardements quotidiens sur l'est de la ville de Gaza, cependant que l'Égypte et le Qatar tentent de relancer les négociations en vue d'une trêve. Nous serons en ligne de Jérusalem avec Michel Paul. En France, l'évacuation du campement établi il y a 6 jours devant l'hôtel de ville de Paris avec, comme toujours, ce dilemme imposé aux sans-abri, accepter ou refuser un transfert vers des SAS régionaux au mépris de la scolarisation des enfants ou encore des ancrages professionnels. Le personnel hospitalier du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille est en grève reconductible depuis vendredi. Il proteste contre la suppression de plusieurs jours de congés spécifiques. Chaleur spécifique également en cellule en pleine canicule. Reportage de Raphaël Benham Delmoumen. Avec Chloé Leprince, enfin, nous prendrons connaissance d'un nouvel outil à la disposition des municipalités, une cartographie en ligne des zones climatiques locales. En Ukraine, un écho du front dit l'importance de l'avancée de l'armée russe dans la région orientale de Donetsk, le groupe opérationnel ukrainien concerné. D'y avoir engagé, je cite, des combats défensifs épuisants contre des forces russes nettement supérieures et de qualifier la situation de complexe, désagréable et dynamique. Allusion est faite là aux infiltrations derrière les lignes ukrainiennes. L'armée russe en position de force 3 jours avant une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est une correspondance de Kiev de Bastien Borille.
Une avancée soudaine d'une 15 kilomètres. C'est l'une des percées russes les plus importantes depuis au moins 1 an dans une région où Moscou n'arrachait en moyenne que 130 mètres de territoire par jour ces derniers temps. L'armée russe applique dans cette bataille pour l'oblast de Donetsk sa méthode habituelle, celle de lancer plusieurs petits groupes de soldats dans des assauts éclairs. Ceux qui parviennent à survivre érigent alors des fortifications à la hâte, le temps que d'autres groupes d'assaut suivent et renforcent les positions fraîchement acquises. De son côté, la défense ukrainienne est rompue à cette tactique contre laquelle elle résiste depuis plusieurs mois, mais cette fois, elle semble avoir failli. Reste à savoir maintenant si Kiev parviendra à repousser cette attaque avant que celle-ci ne se transforme en occupation définitive. Le cas échéant, la route serait coupée entre Pokrovsk en première ligne et Kramatorsk en arrière, ville cruciale pour l'approvisionnement de l'armée ukrainienne à 3 jours d'un sommet Trump-Poutine potentiellement décisif pour l'avenir des frontières du pays.
Bastien Borry à Kiev. Pas une nuit sans un bombardement sur l'est de la ville de Gaza où sont regroupés environ 1 million d'habitants. La nuit dernière, l'aviation et les chars israéliens ont entre autres pris pour cible le quartier de Zeitoun. Plus au sud, des frappes ont tué 5 personnes à Ran Younes et 4 autres dans la ville voisine de Al-Mawassi. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Vous êtes correspondant de RFI à Jérusalem. Michel, comment interpréter ces incessantes opérations militaires israéliennes? Doit-on les lier au plan acté par le gouvernement israélien de reprendre le contrôle de la totalité de l'enclave palestinienne?
Oui, c'est le résultat direct de l'approbation par le gouvernement israélien de ce plan de Benjamin Netanyahou. Et c'est en fait la première phase de la prise de contrôle de cette nouvelle portion de la bande de Gaza. C'est Gazaville qui est ciblée après des ordres d'évacuation de plusieurs quartiers de la plus grande ville de l'enclave palestinienne. Il y a plus de 800 000 Gazaouis, donc, dans ce secteur. La défense civile sur place fait état de l'intensification très nette des bombardements israéliens. Au cours des 3 derniers jours, on note des frappes particulièrement intenses sur les quartiers de Zeitoun et aussi de Sabra. L'aviation israélienne, toujours selon la défense passive, utilise des munitions qui provoquent des destructions massives des habitations civiles et les tirs qui se poursuivent empêchent, selon cette même source, de porter secours aux personnes ensevelies sous les décombres. Israël, de son côté, est toujours dans le déni de la famine à Gaza. Un rapport du COGAT, un organisme qui dépend du ministère israélien de la Défense, affirme qu'il n'y a aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée dans la bande de Gaza, tout en dénonçant l'exploitation cynique d'images tragiques.
Michel, la venue aujourd'hui au Caire du chef du Hamas, Khalil Ahya, augure-t-elle d'une possible reprise des négociations? Et si oui, sur quelle base, avec quelle ligne rouge?
Alors, à ce stade, il ne s'agit pas véritablement d'une relance des négociations, mais plutôt d'une tentative de réparer des relations, disons, tendues entre l'Égypte et le Hamas. Il y a parallèlement des efforts pour reprendre les pourparlers indirects avec Israël pour un accord de cessez-le-feu. La majorité des experts côté israélien pensent que dans les circonstances actuelles, ils sont donc sceptiques sur la possibilité d'arriver à un accord. Et curieusement, on assiste à une sorte d'inversement des rôles. Désormais, Israël réclame un accord portant sur la libération en une seule vague de tous les otages qui sont encore retenus à Gaza.
Merci à vous, Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Au Burkina Faso, 13 personnes impliquées dans des actes de terrorisme, dont les attaques de 2018 contre l'ambassade de France, ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Une soixantaine d'autres ont écopé de peines allant jusqu'à 21 ans de prison, jugement rendu le 8 août dernier et rendu public ce mardi par le ministère burkinabé de la Justice. En France, le président de l'Institut national de l'audiovisuel, Laurent Vallée, interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a été suspendu de ses fonctions cet après-midi par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Quelques vêtements et une couverture de survie. Voilà ce qu'il reste ce soir du campement de migrants établi depuis une semaine sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Paris, faute d'hébergement d'urgence. 350 personnes sans abri ont été évacuées au petit matin, conformément à un arrêté de la préfecture de police. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Mathilde, la police ne leur a pas vraiment laissé le choix. C'était soit disparaître, soit monter dans un bus direction un sas en région. Eh bien, ils sont 66 à avoir accepté la proposition des autorités.
Oui, alors qu'il est, ils sont en train d'arriver à Marseille, Toulouse ou Besançon, dans des centres d'hébergement ou des gymnases, puisque c'est de ça que l'on parle quand on utilise le terme sas. Ils vont y rester un peu moins d'un mois, explique Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56.
C'est 3 semaines d'hébergement, une étude sociale des personnes. Et après, en fonction de la place qu'il va y avoir, remplir les lieux d'hébergement pour les gens qui rentrent dans le bon profil. Et par contre, pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le bon profil, une remise à la rue.
Ceux qui ont accepté de partir, pour la plupart, sont des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des gens qui ont engagé des démarches et qui ont une chance de les voir aboutir. Les autres refusent parce qu'ils savent que leur situation administrative ne changera pas et que, de fait, quitter Paris, c'est risquer l'expulsion.
Et c'est parce qu'on est sans papier, qu'on n'a pas d'enfant à l'école, qu'on n'a pas des démarches administratives pour du médical. Donc c'est des gens qui ne montent pas dans les bus parce qu'ils savent très bien qu'en région, eh ben, le peu qu'ils ont, ils vont tout perdre.
Sur les 280 personnes qui sont restées ce matin, 30 ont été prises en charge par la ville de Paris, des femmes seules, enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans. Les autres ont été redirigées vers le métro par les forces de police. Ce soir, comme tous les soirs depuis 5 ans, Utopia va proposer une centaine de places d'hébergement solidaire sur sa permanence de l'hôtel de ville, chez des particuliers ou dans des paroisses. Ça n'est évidemment pas suffisant pour loger les 3 500 personnes qui dorment dans les rues de la capitale. Je rappelle qu'à Paris, 90% des appels au 115 n'aboutissent pas.
Merci à vous, Mathilde Cariou. Une femme décède la nuit dernière en mer du Nord lors d'une traversée vers l'Angleterre. Elle tentait de monter à bord de l'une de ces embarcations fragiles que les passeurs imposent aux exilés. 19 personnes sont mortes dans ces circonstances en France depuis le début de l'année. 166 migrants ont été secourus ce lundi au large des côtes du Pas-de-Calais, selon la préfecture maritime. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, en mars et en avril dernier, 4 policiers ont été mis en examen dans une enquête sur le décès d'un homme ayant reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation en janvier 2024 à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Le rapport médico-légal établit un lien entre l'usage répété du taser et le décès de Kylian Samati, âgé de 30 ans, lors des faits. Le centre hospitalier du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille est en grève reconductible depuis vendredi. Il proteste contre la suppression de plusieurs jours de congés spécifiques, 9 jours de pause en plus par an, qu'il justifie par des conditions de travail bien particulières en milieu carcéral, d'autant que ces jours-ci, il fait chaud, très chaud dans les cellules. C'est un reportage de Raphaël Benabdelmoumen à Marseille.
Un soleil de plomb s'abat sur le personnel soignant réuni devant le centre pénitentiaire. Ils sont une trentaine, dont Marie, infirmière à la prison.
Nous, il faut savoir qu'on n'a pas de climatisation dans le service, contrairement à l'hôpital. On est en sueur de 8h du matin à 18h. C'est de la fatigue physique qui s'accumule de plus en plus, ajoutée à tout le reste.
Tout le reste, c'est la violence au quotidien. Le suicide d'un détenu le matin même, une collègue soignante violée en avril. avril dernier. Des journées passées derrière les barreaux sans pause à l'extérieur pour le personnel et une surpopulation carcérale qui frôle les 200% au Baumettes. Une situation encore plus insupportable en été, selon Anthony, infirmier.
Quand on peut être pour les hommes à 3 ou à 4 dans certaines cellules de 9 mètres carrés, quand t'as un matelas par terre ou deux matelas par terre, on circule pas en fait. On promenade avec la chaleur qui fait compliqué. C'est des conditions dantesques quoi.
Une véritable fournaise qui a donc des conséquences très concrètes sur les soins que prodigue Alexandre. Il fait partie du personnel paramédical de la prison.
Moi j'ai un métier où on bouge beaucoup dans les séances. Forcément ça freine les possibilités. On le fait quand même. On rigole un peu d'avoir chaud, mais moi ça va, je rentre chez moi me doucher. Les personnes détenues, quand il y a 3 personnes qui ont fait du sport, qui ont fait une séance où ils ont pas mal bougé, qui ont attendu 2 heures dans une salle d'attente toute petite avec la fumée de partout, compliqué quoi. Donc forcément on fait moins de soins.
Un constat que partage Hélène, soignante au Baumettes depuis une vingtaine d'années.
Les détenus, alors c'est compliqué parce que soit ils sont très énervés, soit justement on peut les convoquer aussi, viennent pas et ça fout le travail en l'air aussi. Ah ben attends, ils dorment, hein. Ils n'ont pas envie de se lever parce qu'il fait trop chaud, ils dorment. C'est une population qui est très compliquée à gérer.
Et le nouveau bâtiment de 700 places, censé désengorger la prison, pourrait être surpeuplé dès son ouverture à la fin de l'année, selon les syndicats.
Comment gérer cette touffeur qui règne sur la plupart des départements? On sait aujourd'hui qu'une zone en cœur de ville ne réagit pas de la même manière à un épisode de chaleur qu'une zone rurale où les températures baissent plus facilement la nuit. C'est même précisément ce qu'on appelle un îlot de chaleur. Tous les quartiers ne sont pas égaux, donc face à des épisodes météorologiques intenses. Bonsoir Chloé Laprince.
Bonjour.
Chloé, on mesure mieux ces écarts aujourd'hui grâce à de nouvelles méthodes.
Oui, il y a 18 ans, le 4e rapport du GIEC prédisait déjà des villes de plus en plus impactées, avec notamment des épisodes caniculaires de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents en ville. Eh bien, on y est. Et si entre le centre de Paris et sa périphérie, par exemple, il peut y avoir 10 degrés d'écart, c'est que la météo extrême n'affecte pas tous les quartiers de la même manière. Mais ça n'est pas toujours allé de soi. Il a déjà fallu commencer par mesurer en ville. Et ça, la météo urbaine, c'est venu très tard. Même si le pionnier de l'îlot de chaleur, c'est un Britannique déjà dans les années 1820. En réalité, on a longtemps enregistré les températures loin des centres-villes, en périphérie, près de l'industrie et notamment de l'aéronautique d'ailleurs. On consignait des données moyennes à l'échelle régionale. Membre du GIEC, le météorologue Valérie Masson a été précurseur pour faire advenir cette culture de la météo urbaine. Et ça, c'était il y a seulement 20 ans en France. Et jusqu'à la canicule de 2003, on pensait encore souvent, à tort, que les îlots de chaleur étaient créés par la pollution.
Et aujourd'hui, Chloé, il existe un outil à la disposition des municipalités.
Oui, pour raffiner entre les quartiers, comprendre lesquels sont le plus exposés aux chaleurs extrêmes, alors qu'on manquait de données, pondérer ça ensuite par leur vulnérabilité, et ça c'est plutôt socio-économique, il a fallu un changement d'échelle massif qui a supposé notamment de penser par îlots. On appelle ça les zones climatiques locales, LCZ en anglais. Concrètement, c'est de la cartographie en ligne, basée sur des images satellites en particulier, qui montre le degré d'exposition au phénomène d'îlots de chaleur. Et ce zonage plus fin, qui s'inspire notamment de la modélisation de deux chercheurs canadiens, Stuart et Hawke, en 2012, c'est un outil désormais disponible pour 12 000 communes qui peuvent consulter gratuitement les effets de la morphologie de leur quartier et prendre des décisions en fonction. Adapter le plan local d'urbanisme intercommunal comme à Rodez ou désimperméabiliser des sols comme à Libourne en Gironde par exemple. 5 millions de Français vivent dans des quartiers très sensibles aux fortes chaleurs, dont 1,7 million à Paris. Ça concerne en fait la moitié des villes de plus de 400 000 habitants.
Merci à vous, merci de vos explications. C'est toute l'Europe du Sud qui est confrontée à ces vagues de chaleur. La Grèce a fait appel aujourd'hui au mécanisme européen de lutte contre les feux de forêt pour parer de nouveaux foyers déclaré à travers le pays, frappé par la sécheresse. En Espagne, le dernier feu d'importance est déclaré à Tres Cantos, dans la grande banlieue de Madrid, au nord-est de la capitale. Il a provoqué un mort et un blessé grave. Le feu a pris d'abord dans la campagne environnante hier soir vers 19h45. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Après une nuit d'évacuation, de flammes, de peur et de combats acharnés des pompiers, l'incendie de Tres Cantos évolue favorablement aujourd'hui. Les autorités restent prudentes, mais le maire de la ville donnait enfin une bonne nouvelle à la mi-journée. Après une visite du quartier frappé par les flammes, Jesús Moreno a adressé un message à ses administrés.
On va permettre le retour au domicile, c'est une avancée. L'objectif reste l'extinction de cet incendie et le retour à la normale. C'est une bonne nouvelle. J'espère que tout le monde va pouvoir rentrer. J'ai pu visiter la zone affectée. Il y a une certaine normalité, pas partout, mais en général sur la zone.
Ailleurs, en Espagne, les incendies sont encore hors de contrôle. En Galice, notamment au nord-ouest du pays, 3000 hectares sont partis en fumée et les pompiers militaires ont été envoyés. En Castille et Léon, plus de 3700 personnes ont dû être évacuées à cause de plusieurs feux, tandis qu'à l'extrême sud, près de Cadiz, 2000 résidents ont subi le même sort. Ce dernier incendie est d'origine criminelle, ont indiqué les autorités régionales.
Demain, en France métropolitaine, 14 départements en vigilance rouge pour canicule aujourd'hui, plus que 5 demain à partir de 6h du matin. Vigilance orange toujours pour canicule. Actuellement, 64 départements concernés, il y en aura 68 demain. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique, Grégory Wallon.